Albert Sim, la jarretière de la mariée. Roger de Vigneulles vit arriver chez lui ce matin-là son principal créancier, le père Salomé, encore plus revêche et plus intraitable que de coutume. « Non, monsieur le comte, je ne veux plus attendre. Assez comme ça, vous vous moquez de moi, c'est clair comme le jour. Eh bien, je n'aime pas qu'on se moque de moi. » « Mais je vous assure bien, monsieur Salomé, que telle n'a jamais été mon intention, jamais. »« Allons donc, enfin, j'ai besoin d'argent, vous ne pouvez pas m'en donner, n'est-ce pas ?»« Ben, je ne le puis pas, effectivement. »« Alors, d'ici même, je m'en vais chez l'huissier. »« Je m'en vais vous poursuivre, faire vendre. »« Il faut en finir à la fin des fins. »« Bien fait, » conclut Roger en étouffant un bâillement, et d'un ton qui ne laissait aucun doute sur la complète inefficacité de cette menace. « Vous avez cependant proposé un moyen bien simple de vous libérer, » reprit le vieux Salomé, agacé et démonté par l'imperturbable calme de son interlocuteur. « Ouais, si vous m'aviez écouté... »« Quoi donc ? Ben vous seriez marié. »« Oh, grand merci, j'aime mieux vous devoir. » C'est ça, toute la vie, quand je vous disais que vous vous gaussiez de moi. Marié, marié par vous, moi, vous n'y songez pas, monsieur Salomé. Je vous demande bien pardon, j'y songe, monsieur le comte, ou plutôt j'y songeais. Et permettez-moi d'ajouter que vous pourriez l'être plus mal que par moi, marié. Oui, ne vous en déplaise. J'avais justement si bien votre affaire. Ah oui, votre petite paysanne, votre vigneronne de la Champagne, encore. Oui, monsieur le comte, encore. Ma petite vigneronne, comme vous le dites, une jeune personne tout à fait digne de vous. 600 000 francs de dot, plus 1 000 000 à la mort du père, sans compter le reste, les oncles, les tantes... Avec cela belle à ravir, gracieuse et distinguée comme une petite reine, instruite mais sans exagération, excellente musicienne. Elle sort du couvent et son rêve serait d'habiter Paris et de s'entendre appeler Madame la Comtesse. Voyez-vous ça? Mais quelle aubaine, mais nous serions illico, vous tirez d'embarras, moi payé, et il vous resterait une perle, monsieur le comte, une véritable perle. Bon, lui connaît qu'un défaut, un seul. Oh, vous devez vous tromper, monsieur Salomé. Elle est absolument intacte et parfaite, votre perle, interrompit Roger, toujours avec son ironique placidité. Non, malheureusement, elle boite. Vous avez dit ? Oui, elle boite, cette jeune personne. Elle est atteinte de claudication, autre, légèrement. C'est à peine visible. Ah, ça vous plaisantez. C'est vous qui vous moquez de moi, monsieur Salomé. Pas le moins du monde, dont je ne vois rien vous cacher, monsieur le comte. Je vous ai fait voir les avantages de l'inventaire, de l'affaire, le beau côté de la médaille. À présent, je vous en dévoile le revers. Car oh, il y a un revers, il y en a toujours un. Oui, au dire même de monsieur de la Palisse. Cependant, monsieur Justus Salomé insista si vigoureusement cette fois, se montra si éloquent et si persuasif, que Roger de Vigneulles, malgré son scepticisme et son indifférence, consentit à se laisser conduire à une partie de chasse au château de Blerzy-les-Rhin, chez M. Martelot, le grand fabricant de vin de champagne, et à entrevoir Mademoiselle Clotilde, la jeune vigneronne. Il en revint tout surpris et enthousiasmé. Mais il a raison, ce diable de Salomé. Elle est charmante, ravissante, cette petite. On la prendrait sans dot et 600 000 francs, plus 1 000 000 du papa, les espérances. Tiens, tiens, mais oh, ce serait pas si bête. Son infirmité, oh, mais n'avait rien de pénible pour autrui, rien de désagréable. Au contraire, était même presque tenté d'ajouter Roger, Elle lui donne presque un attrait de plus, un surcroît de grâce, comme Mademoiselle de la Vallière. Bref, Clotilde lui dit plus si fort qu'il n'hésita pas à continuer ses démarches et bientôt à solliciter sa main. Si Roger avait été séduit par la beauté, les charmes physiques et la dot de Mademoiselle Martelot, celle-ci, de son côté, n'était pas demeurée insensible aux qualités du jeune comte, à ses élégantes manières, son cachet aristocratique et son chic parisien, surtout au prestige de son nom et de son titre. Ainsi fut-il agréé d'emblée. Puisque vous convenez, mes enfants, et que la chose est décidée, le mieux est d'en terminer tout de suite, déclara le brave monsieur Martelot. Nous approchons de Pâques. Le mariage devrait avoir lieu dans la semaine de la Quasimodo. Parfaitement, mon cher beau-père. Les délais légaux seront expirés, et votre avis, votre proposition, s'accorde pleinement d'ailleurs avec mes plus vifs désirs. Le plus tôt sera le mieux. Le soir même de la cérémonie, comme tous les invités au nombre d'une trentaine étaient rassemblés autour d'une longue table dressée, vu la circonstance dans le salon d'été du château, et qu'on venait, flûtes en main, de boire à la prospérité du nouveau couple, un petit cousin de Roger, Saturnin d'Attonville, un jouvenceau de 15 ou 16 ans, se glissa mystérieusement sous la table pour aller, selon l'antique coutume, dénouer et cueillir la jarretière de la mariée. Mais soudain, en même temps que Clotilde se reculait en jetant un cri strident, Saturnin surgit tout défait, blême, effaré. « Oh, mais c'est que elle a une jambe de bois !»« Une jambe de bois !» s'écria Roger en se levant d'un bond et en considérant sa femme avec stupeur. « Vous avez une... » Clotilde courba la tête et se plongea le visage dans les mains. « Me tromper de la sorte, oh !» Mais je croyais que vous le saviez. Elle aussi le pensait, interrompit M. Martelot. Nous n'avons voulu tromper personne, comment donc? Une jambe de bois, oh oh, répétait Roger tout indigné et consterné. Allons, calmez-vous, mon ami, reprit M. Martelot, calmez-vous. C'est un petit malentendu. Un petit, par exemple, je vous trouve superbe. Voyons, Roger, pas de scandale, mon enfant, remettez-vous. Voyons, j'augmenterai la dot de 50 000 francs, ajouta-t-il à voix basse et en forçant son gendre à se rasseoir.